direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer!
On peut pas faire de magie, là. On peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est toute une surprise. Oh, bonjour les tout petits!
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François.
Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes. Bonsoir tout le monde, bonsoir autour de la table.
Bonsoir.
Le rideau s'ouvre sur la grande scène. On prit place autour de cette table, les fameux acolytes. Ce soir, on vous promet de vous ensorceler, de vous transporter dans un monde étrange, lugubre et même morbide, avec quelques gouttes de sang, avec des loups-garous, des sorcières. On a tout un spécial pour vous ce soir. Si vous êtes nouveau parmi nous, si c'est la première fois que vous écoutez l'émission, sachez que le concept de l'émission est simple. À chaque semaine, on vous prépare tout un cabaret autour d'un seul thème, un thème différent par émission. Ils sont d'ailleurs très différents, ces thèmes. Cet automne, on est passé du gin québécois, on a traité de la pluie, on est allé au fromage d'ici. Et à chaque semaine, on fait un cabaret autour d'un thème. Alors, je vous dévoile le thème de ce cabaret ce soir, plus tard dans l'émission, dans cette introduction, mais je vous dévoile les acolytes tout de suite. Autour de la table, Christine Gélina, Geneviève Proux, Janelle Touchette et Juan Blasco. Bonsoir tout le monde!
Bonsoir!
Geneviève, allô tout le monde!
Quel bel automne nous avons! J'espère que vous en avez profité cette semaine parce qu'on a eu tout un soleil. Christine, t'as passé une belle semaine?
Ah, tellement, Jean-François. Effectivement, l'automne au Québec, hein, les couleurs, la belle lumière, j'en ai profité, oui.
Oui. Et toi, Janelle, t'as passé une belle semaine?
Oh que oui! Chez nous aussi, c'était l'automne. Je me suis mise dans l'ambiance de notre thème hier avec un film de circonstances en famille.
Oui. Ah, je sens que Geneviève va nous en parler. Juan, t'as passé une belle semaine?
Une très bonne semaine, Jean-François. Des bonnes lectures en ce qui me concerne.
Et pour finir le tour de table de nos acolytes, la délicieuse, l'envoûtante Geneviève, ta semaine, toi?
Très agréable, hein? Moi, je suis une petite fleur d'automne, donc c'était mon anniversaire et mon frère m'a donné une passe annuelle pour le Mont-Saint-Bruno. Alors, c'est très agréable, quel beau cadeau, je vous le recommande à tous.
On te souhaite bon anniversaire, Geneviève.
Joyeux anniversaire!
Oui!
Merci!
Alors, vous nous écoutez, tout le monde. Le meilleur moyen pour nous suivre et connaître nos nouveautés, c'est d'aller sur notre page Facebook et de nous aimer. L'adresse de notre page, qui veut la donner, l'adresse de notre page?
facebook.com/ le cabaret des acolytes avec un S.
Et Christine, qu'est-ce qu'ils gagnent, ces gens, lorsqu'ils s'abonnent à notre page Facebook?
En fait, la chance de faire partie de notre fan club, Jean-François.
OK. Alors, je reviens vers vous dans quelques secondes, les acolytes, le temps de présenter aux auditeurs le thème de notre podcast ce soir. Pour situer notre thème ce soir, imaginez-vous dans un décor illuminé de bougies au travers de citrouilles. Tout commence dès notre enfance. On se déguise, une perruque, une épée, un super-héros, un clown, un chat, des déguisements complètement inoffensifs et rigolos. Octobre, avec ses citrouilles, appelle à cette fête. Puis une année, la fête tourne différemment. Notre mère nous propose le drap pour faire le fantôme. La fête prend des allures lugubres, des sorcières, des squelettes, des vampires, des momies. On est soudain très loin du monde des clowns et des fanfarons. Alors que l'on croit ce monde devenir noir, il se colore au secondaire, au collège, en rouge, un rouge sang. C'est effectivement sous l'influence des films d'horreur, avec la figure ensanglantée, que l'on défie les portes du voisinage à la quête de bonbons. Mais au secondaire, on est davantage confronté à des adultes qui nous perçoivent un peu trop vieux pour cogner à leur porte. Alors, des rues, on passe aux parties, des parties déguisées. Et soudain, on comprend que cette fête est l'unique occasion dans l'année où il est légitime d'être n'importe qui sauf soi-même. Alors, vous l'aurez deviné, ce soir, les acolytes vous font tout un cabaret spécial Halloween!
Oh, quelle introduction, wow. JF! Wow!
Je me tourne vers vous, les acolytes. Christine, tu vas nous accompagner dans musique. Alors, cette semaine, des chansons d'horreur, de suspense qui vont dresser le décor, j'imagine?
Mais tout à fait, l'ambiance de l'Halloween, c'est aussi ça, c'est aussi les chansons. Donc, je vous présente ça à travers le cabaret.
Merci, Christine. Janelle, pour ta part, tu t'es garochée dans un gros plat de bonbons.
Exactement. Jean-François, si je te parle de cigarettes, de papayes, de caramel, de chips, est-ce que c'est des bonbons que tu aimes?
Définitivement.
On va tellement passer un bon moment parce que je vais vous faire revivre nos souvenirs d'enfance dans le temps où on partait dans les rues avec une tête d'oreiller. Est-ce que vous vous en souvenez?
Ben oui, la fameuse tête d'oreiller, ben oui.
On s'en reparle tantôt.
OK, d'accord. Merci beaucoup, Janelle. Geneviève, pour ta part, j'invite tout le monde à se préparer un petit plat de, pas de bonbons cette fois-ci, mais de popcorn parce que tu vas nous parler de...
De films d'horreur, en effet, Jean-François, et quoi de mieux que de déguster ça, déguster un bon popcorn pour savourer l'épouvante à son meilleur. Donc, je vais vous parler de tous les films d'horreur par type, en fait. On va définir ensemble les types de films d'horreur.
Merci Geneviève, on a bien hâte. Juan, pour ta part, ce soir, vas-tu nous faire peur?
En fait, ça dépend de vous, Jeff. Moi, je vais vous emmener aux origines païennes de l'Halloween et puis on va voir ensemble ce qu'il ne faut pas faire quand on conclut un pacte avec le diable.
Non, ne jamais conclure de pacte avec le diable. Merci Juan. Moi, cette semaine, je vous propose un livre, encore un livre de recettes, un livre qui dresse des recettes épeurantes pour l'Halloween. Alors, ça démarre, les acolytes, le cabaret est ouvert sous le thème de l'Halloween. This is Halloween. Christine, qu'est-ce qu'on écoutait?
On écoutait la chanson thème du film Nightmare Before Christmas de Tim Burton, spécialement chantée par Marilyn Manson. Je ne sais pas si vous l'aviez reconnu. En fait, chanteur populaire américain avec des airs sataniques, hein, Marilyn Manson, bien connu, sa chanson la plus populaire de Beautiful People. Et il a fait aussi une reprise de Sweet Dreams de Eurythmics aussi, que je me souviens d'avoir écouté. Par contre, c'est pas une de mes préférées, Marilyn Manson. Saviez-vous que Marilyn Manson tire son nom de deux de ses idoles? La première, Marilyn Monroe, ça va. Et le deuxième, c'est un chanteur, un personnage un peu plus tordu, Charles Manson.
Ah oui, c'est pas chanteur du tout.
Oui.
Un tueur.
Un petit mélange entre les deux. Et si vous
mais je savais pas ça. Donc, c'est le mix des deux, de Marilyn Monroe et de Charles Manson. Ouais. Wow.
Exactement, ah. Exactement. Donc, vous avez eu des petits échos de ces spectacles un peu tordus, en fait, voilà. Et Charles Manson, qui est un criminel bien connu, en fait. Là.
Ben oui. Alors ça, Christine, c'était la version francophone de la chanson de Marilyn Manson.
Exactement, parce qu'il y a eu une traduction du film aussi, donc c'était la version française du thème musical.
Merci, Christine. On revient vers toi dans l'émission avec d'autres musiques et chansons. Alors, deux mots pour vous dire que ce balado est rendu possible grâce à Balado Québec. On les remercie et le cabaret des acolytes est disponible chez eux, mais aussi sur Spotify, Apple, Google et la plupart des plateformes. Alors, on poursuit le cabaret sous le thème de l'Halloween. Et là, je me tourne vers Geneviève. Tu vas nous parler des films d'horreur. Pour moi, un film d'horreur, c'est un bras coupé par une tronçonneuse ou peut-être même une sorcière. Mais Jen, dis-moi, tout d'abord, un film d'horreur, c'est quoi? C'est quoi de l'horreur?
Ben c'est ça, hein? Merci Jean-François. En effet, l'horreur, c'est un peu tout ça. Fait que, pour mieux préparer ma chronique, je me suis justement donné à aller chercher la définition du Larousse pour commencer. Okay?
Bon, le bon vieux Larousse, vas-y.
Oui, le bon vieux Larousse. Alors, impression violente causée par la vue ou la pensée d'une chose qui fait peur ou qui répugne. On entend par là de l'effroi, de l'épouvante, de la répulsion. Alors, en outre, ça ressemble à ça. Okay? Okay. Fait que maintenant qu'on a défini, disons, c'est quoi le concept de l'horreur, comment catégoriser nos films d'horreur, OK, dans ce cas-là? Est-ce que, justement, c'est des films plus de type gore ou sanguignolant, ou on préfère le paranormal, l'aspect psychologique, la science-fiction, des meurtres, des animaux, des monstres effroyables?
Non, mais moi, la science-fiction, ça m'appelle moins dans l'horreur, par exemple.
Moi également, je dois admettre que je ne suis pas très, très fan de Aliens et tout ça, malgré que c'est des classiques quand même pour ceux qui sont fans de science-fiction. Mais sinon, je les aime quand même presque tous, là, disons peut-être avec un peu moins la science-fiction. Fait que je vais vous en parler. Okay? On va citer une couple de films par catégorie.
OK, okay? Vas-y, on va avoir du fun. Vas-y.
Donc, si on parle justement de films d'horreur avec des animaux, tout de suite, il me vient à l'esprit The Birds, Jaws ou encore Anaconda. Tous trois sont complètement différents, par exemple. Dans le fond, The Birds du grand Alfred Hitchcock, c'est plus un type psychologique, même s'il y a des animaux dans ce film-là. Mm-hmm. Tandis que Jaws, là, Jaws, Les Dents de la Mer, ça, c'est beaucoup plus une démonstration physique réaliste de choses qui peuvent se produire quand même, OK? Et si maintenant je me tourne vers le fameux Anaconda avec la belle Jennifer Lopez et puis Ice Cube, ben c'est certainement stressant là, comme film, mais c'est parfois drôle aussi parce que c'est pas mal exagéré, on va se le dire.
Mais dans les films d'horreur, il y a souvent de l'exagération, puis ça vient aussi faire un mélange d'émotions entre la peur puis le rire, hein? Il me semble, non?
Oui, c'est vrai que ça vient donner un équilibre parfois, en effet, j'en pense à balancer un petit peu tout ça. Effectivement, puis pour moi, là, quand on parle d'exagération, la palme, là, elle va à Godzilla. un classique japonais, film de monstres, qui me fait mourir, mais de rire. Fait que, autre incontournable film de monstres et créatures, le classique Frankenstein,
ben oui.
Nosferatu, Dracula. Nosferatu, là, c'est la preuve que la musique prime dans le cinéma de l'horreur, parce qu'il a pris l'affiche en 1922, donc c'est un film muet et en noir et blanc, d'où l'importance d'une bonne musique de fond, une bonne trame de fond pour justement venir solliciter là, le sentiment d'épouvante et tout ça. Mm-hmm.
Mm-hmm.
Donc, parlant de bonne musique, lorsque j'entends, me donne la chair de poule et sème l'excitation, je pense aux fameux hommes monstrueux qui ne meurent jamais et qui aiment tuer. À vous de deviner de quel film, de quelle série de films je parle en ce moment-là.
Walking Dead.
La série Halloween, Geneviève, non?
Oui! Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui s'apparentent à ça. J'avoue, Friday the 13th, ça ressemble aussi. Effectivement, donc les fameuses Halloween où Michael Myers, de son couteau, désire obsessivement tuer sa sœur, la sublime... Jamie Lee Curtis, dans le fond, interprété par Jamie Lee Curtis. Donc, si maintenant on se dirige un peu justement dans un type gore ou sanguignolant, on peut penser tout de suite à Chainsaw Massacre, ou encore à la série de films Hostel. C'est sûr que ça a été très bien servi dans le gore. Voyons, pardon, avec ce film-là. Cœur sensible, s'abstenir. Je pense aussi au film SAW, en français Décadence. C'est 9 films en tout qui sont vraiment, vraiment très, très gore. Moi, j'ai d'ailleurs préféré seulement le premier film de cette série-là de 9 parce qu'il était un peu plus psychologique et justement moins gore. Oui, Janelle.
Mais Geneviève, gore, quand tu dis gore, c'est vraiment comme dégueulasse, en fait. Là.
Sanguinolent, que... dégueulasse.
Ouais, okay. Ouais.
Effectivement. Si je pense à un autre film, OK, et que je vous dis le terme « Red Room », est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ah ben oui, The Shining.
Exactement. Ça là, celui-là là, hey, quelle interprétation de Jack Nicholson.
Mais oh.
Incroyable. Il est vraiment là, il rend un personnage qui est sublimement cinglé. C'est pas possible comme prestation, ça. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui vous propose un emploi là, de prendre soin d'un hôtel qui est fermé en hiver, là, acceptez pas ça, ce job. Je vous le conseille pas. Une dizaine d'années plus tard, on a un autre classique qui est survenu, Silence of the Lambs, interprété par vedette principale Anthony Hopkins, qui était, dans le fond, un psychopathe cannibale au QI très, très élevé. On l'a vu jouer aux côtés de sa psychologue, Judy Foster, tout aussi délirant que The Shining, mais à sa façon différente, évidemment.
C'est vrai, hein?
Ah oui. Puis je termine tout ce palmarès-là, les acolytes, avec l'incontournable Stephen King, donc le film It. Par contre, je peux vous dire que mon coup de cœur avec It va vraiment à la mini-série qui est sortie en 90, qui s'est adonnée en deux parties, plus qu'au film qu'on a eu plus récemment là, dans les années 2000. Je préfère vraiment, moi, la mini-série. Je vous recommande ça. Okay? Bon cinoche, les acolytes.
Merci, Geneviève.
Merci, Jane.
Croyez-vous aux sorcières? Et elle danse, danse, danse les sorcières. Et elle danse, danse. Je désire m'approcher pour mieux les observer. Quand je vois tout autour, ce sont des loups par centaines, des loups à bois. Ils sont venus de tous côtés pour fêter avec moi. Croyez-vous aux sorcières? Croyez-vous aux sorcières? Et elle danse, danse, danse.
On reconnaît la voix.
Non, oh, Jean Leloup. Jean Leloup qui chantait les sorcières. Je me tourne vers vous, en fait, pour vous poser la question. Quelle est votre sorcière préférée, les acolytes?
Moi, c'est la sorcière de mon enfance. La sorcière oui. Bien-aimée.
Ah, classique!
Mmh. Je sais oui. que dans notre enfance, je ne suis pas si vieux que ça, là, dans notre enfance, on avait les vieilles reprises de ces émissions-là. Je sais bien que, je sais bien que ça n'a pas été tourné dans mon enfance.
C'est un grand classique, hein?
Ouais.
Elle qui faisait bouger son nez pour faire de la magie. Mmh. Ouais. Juan, de ton côté?
De mon côté, c'est plus un homme, c'est un sorcier, Merlin.
Ouais, ouais, c'est vrai, on les oublie, les hommes, hein, les hommes sorcières, ouais. Les sorciers.
C'est une belle façon pour la première drag queen, peut-être.
Janelle, de ton côté.
Moi aussi, un sorcier, définitivement Harry Potter, mon préféré.
Ah oui.
Ah, wow. Tu vois, vas-y, t'as choisi un gars.
Ouais.
Geneviève.
Ben moi, je pense à la valeureuse Jeanne d'Arc. En fait, quand on parle de sorcière, oh, c'est un petit peu plus triste à ce niveau-là, par contre, ouais. Malheureusement.
Mm. Plus réel. Hein? Moi, la mienne, c'est Hermione dans Harry Potter aussi.
Ah, oui.
C'est ma sorcière préférée. Il y en a beaucoup, hein, les sorcières de Salem. Il y a Gargamel, un peu un sorcier que j'ai tant détesté quand j'étais plus jeune. Cruella dans les 101 Dalmatiens. La sorcière dans Le Magicien d'Oz. Vous vous souvenez-vous?
Ah oui,
de
les souliers.
De l'Ouest, c'est la sorcière de l'Ouest. Les sorcières dans les contes, celle dans La Belle au bois dormant, dans Hansel et Gretel. Et puis, un de mes préfs aussi, là, Panoramix, c'est un druide, mais sorcier aussi, en fait.
Oh.
Et puis, il y a Blanche-Neige aussi, il y a la maman de Blanche-Neige.
Oui, oui, il y en a vraiment beaucoup quand on met à faire le décompte, effectivement, il y en a plusieurs.
Ce soir, dans la forêt sacrée, j'ai l'honneur de vous saluer. Déesse et magicienne, pour moi, Mr. Jack aux lanternes, banni de l'enfer et du ciel, c'est bonheur inestimable de vous avoir à la table du grand festin d'Halloween.
C'est une belle voix, c'est laquelle?
On écoutait Jacques Higelin avec la chanson Halloween.
Merci beaucoup, Christine. Alors, on poursuit ce cabaret spécial Halloween et je me tourne vers Juan, notre architecte de l'histoire. Juan, tu as deux sujets ce soir. Le premier, on ne pouvait pas ne pas passer par d'où vient l'Halloween. Hein? Il me semble, 2500 ans, selon mes recherches, que tu vas nous parler de Samhain. Dis-moi comment prononcer ça.
Alors, ça se prononce Samhain. Ça s'écrit Samhain, effectivement, Jean-François, mais ça se prononce Samhain. C'est du gaélique, l'écossais ancestral. Et effectivement, c'est il y a 2500 ans. En irlandais, on va dire Samhain. Donc ça, c'est l'ancêtre de l'Halloween. C'est là que tout a commencé. Originellement, c'est une fête celte et gauloise, et on l'a fêtée donc pour célébrer la nouvelle année, qui en ces temps pré-christianisme ne se terminait pas au mois de décembre, mais bien au mois d'octobre, et débutait au mois de novembre. Et en fait, Samhain, c'est le nom gaélique du mois de novembre.
D'accord.
Donc Samhain, ça veut dire novembre. Donc cette fête est en réalité un mélange de rituels magiques, de sacrifices, de beuveries à l'hydromel. Donc l'hydromel qui est cette boisson alcoolisée à base d'eau et de miel. Mais c'est aussi et surtout l'occasion pour les druides de renouveler le feu pour la nouvelle année. Donc les villageois sont à ce moment-là invités à éteindre tous les feux chez eux, les flambeaux, etc. Puis ils les rallument lors d'une cérémonie menée par les druides en se servant du feu sacré qui a été allumé par le druide pour la nouvelle année.
Waouh!
Donc, en fait, Samhain, c'est le moment où la journée où les morts et les vivants peuvent communiquer ensemble. Les morts ne sont plus invisibles et les vivants peuvent traverser pour aller voir leurs proches défunts. Fait que ça, c'était la croyance de l'époque. Fait que les gens disaient voir des fantômes.
Mais
ça, je verrais bien Marie-Christine et Janelle tenter l'expérience.
Ah, c'est sûr. Hein?
Non, merci, ça va aller.
Ça va. Hein?
On va leur conseiller Poltergeist. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais ça, Juan, c'était la version un peu historique de la provenance de l'Halloween, mais il y a des légendes qui sont plus révélatrices de tout ce qu'on entend autour de l'Halloween, dont Jack-O-Lantern.
Ben oui, par exemple, comme on l'entendait dans la chanson que Christine a choisie pour nous, c'est une histoire quand même assez, assez célèbre, puis tout le monde connaît Jack O'Lantern. Puis en fait, cette légende, elle parle de Stingy Jack, Stingy qui est en fait l'anglais pour le mot avare. Donc c'était un Anglais qui était un Irlandais qui était avare et qui était très, très persuasif.
OK.
Et donc, cet avare-là, il a décidé d'inviter le diable, donc notre bon vieux Lucifer, à prendre un verre dans une taverne. Fidèle à sa réputation, pour éviter de payer l'addition, comme il était très persuasif, il a décidé de persuader le diable de se changer en pièces de monnaie, ce que ce dernier finit par faire. Mais finalement, au lieu de s'en tenir au plan, donc de payer avec la monnaie que le diable venait de se transformer son corps dans une pièce de monnaie. Il est tellement avaricieux qu'il a mis la pièce dans sa poche et il est parti. Mais au préalable, dans sa poche, il avait mis une croix. Fait qu'en fait, il avait préparé son coup et il avait mis une croix avec Jésus-Christ dessus.
Et pourquoi il avait mis une croix dans sa poche?
Eh bien, en fait, il avait mis une croix, Jean-François, parce que ça empêchait le diable d'utiliser ses pouvoirs pour se rechanger en lui-même.
Ah, donc le diable était pris dans la pièce de monnaie.
Le plan, c'était de payer, puis après ça, le diable se serait rechangé en lui-même, puis il serait parti à la limite avec la caisse, tu vois, de la taverne. Fait que finalement, éventuellement, Jack a libéré le diable, mais en lui faisant faire un deal. Donc il lui a dit, tu ne viendras jamais collecter mon âme, premièrement. Et deuxièmement, tu dois me laisser tranquille pendant un an. Sauf que notre filou ne s'est pas arrêté là. Le cher Jack a finalement persuadé le diable une seconde fois de faire quelque chose pour lui. Fait que Lucifer s'est finalement vu aller chercher un fruit en haut d'un arbre. Et pendant qu'il allait et qu'il montait pour aller chercher le fruit, très très rapidement, Jack a fait un signe de croix dans l'écorce de l'arbre. Ce qui a fait en sorte qu'une fois de plus, le diable n'était pas capable de descendre de l'arbre, fait qu'il avait encore triqué le diable.
Malin, il est malin.
Il est très, très malin. Très, très malin. Cette fois-ci, pour laisser le diable descendre, ce que fit Jack, c'est qu'il lui a demandé 10 ans de tranquillité pendant lesquels le diable n'aurait pas le droit de venir se venger de lui, en fait. Mais peu de temps après, malheureusement, à l'Halloween qui a suivi, Jack décéda par une nuit très, très noire, une nuit sans lune. Lors de son décès, Dieu n'ouvra pas les portes du paradis à Jack parce qu'il s'est dit, bah là, c'est une mauvaise personne.
Il avait assez péché.
Exactement. Et quand il est allé voir le diable, lui qui lui avait promis de ne jamais collecter son âme, il ne la collecta pas. Donc Jack est resté condamné à errer dans les limbes pour l'éternité.
Hmm.
OK, mais c'est quoi le rapport avec la citrouille Juan?
Ben oui, Juan, c'est quoi le rapport?
Ben justement, j'y viens. En fait, ce soir-là, le soir de sa mort, Jack avait sur lui un navet. Quand le diable, en fait, a renvoyé Jack dans la noirceur de la nuit, il lui donna un charbon ardent pour s'éclairer. Comme il n'avait rien sur lui autre que le navet qu'il avait au moment où il est décédé, il l'a creusé et il a mis le charbon ardent à l'intérieur pour pouvoir s'éclairer, vu que la nuit était noire et sans lune. Et depuis, à tous les Halloween, étant donné qu'il n'est pas allé en enfer et qu'il n'est pas allé au paradis, comme le dit la chanson que Christine nous a proposée, il est en fait condamné à errer en vain et à effrayer les villageois qui s'aventurent dans la noirceur. Alors la citrouille, j'y arrive, c'est qu'en fait finalement, pour se protéger de Jack, les villageois ont commencé à sculpter des pommes de terre tout d'abord pour pouvoir y placer des bougies, donc pour pouvoir en fait finalement faire des bougies, des porte-bougies naturelles et les mettre à l'extérieur de leur maison. Quand la tradition a traversé l'Atlantique, quand ici en Amérique du Nord on a énormément de citrouilles, naturellement c'est la citrouille qui a repris le dessus.
Mais oui.
Et les gens, voulant faire peur et rappeler l'histoire de Jack, ont finalement fini par creuser des yeux également dans la citrouille, un nez, une bouche, pour en arriver aujourd'hui à ce qu'on retrouve, à savoir la citrouille creusée avec le nez, la bouche, puis la bougie à l'intérieur qui reflète cette ombre qui est très maléfique. Donc moi, je n'aurais qu'un conseil à vous donner. Si vous baladez dans le noir un soir sans lune, il y a un navet sur vous, ça peut servir.
Merci, Juan.
C'est moins lourd qu'une citrouille, hein?
Exact.
Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts.
On écoutait Ghostbusters, évidemment, avec Ray Parker Jr., ce qui m'amène à vous demander, en fait, à vous parler des costumes. Avez-vous des déguisements, là? Des déguisements, quand vous pensez déguisement, c'est la première chose qui vous vient en tête, puis là, vous dites, ah non, je peux-tu penser à autre chose?
Clairement, la sorcière.
Oui. La sorcière, effectivement, c'en est un que j'essaie de penser à autre chose. Dis-moi, il doit en avoir d'autres, des déguisements, là, mais ça revient toujours. Hein?
Le mort-vivant.
Oui.
La momie.
Oui. On le faisait avec des rouleaux de papier de toilette. Hein?
C'est ça.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guest included Wolfman, Dracula and his son. The scene was
the monster mash.
On écoutait Bobby Boris Pickett avec The Crick Cricket. Je ne sais pas si je le prononce très bien. En fait, c'était The Monster Mash. Mais il y en a plusieurs hein, des déguisements d'Halloween. Je vais juste vous dire rapidement. Le fantôme, super-héros. Mais les super-héros en hommes, en femmes, on les a tous vus. Sorcières pour Janelle, magicien Jean-François, fées pour moi, ninja, Dracula, vampire, Geneviève, zombie. Toutes les professions aussi. Médecins, mécaniciens, pompiers. Puis juste pour vous dire, ça peut mettre du petit piquant aussi le soir, hein, des fois.
Oh!
Déguisement d'écolière!
Ah, donc on n'aime pas les films de peur, mais on aime les soirées piquantes.
Allez, Allez, on poursuit ce cabaret et je me tourne cette fois-ci vers Janelle. L'Halloween sans les bonbons pour les enfants, ce n'est pas envisageable. Janelle, tu nous fais tout un topo complet. Vas-tu nous en expliquer les origines?
Oui, Jeff, je ne pouvais pas parler de l'Halloween sans aborder les bonbons. On va se dire, l'Halloween, c'est l'occasion parfaite pour tomber dans le sac de friandises de nos enfants sans se sentir mal. Si je reviens à ta question, Jeff, d'où vient la tradition des bonbons? Pour faire suite au segment de Juan, j'ai creusé un peu pour trouver que la vérité, c'est que les bonbons sont qu'une simple déformation de la tradition des Samhains, ou en fait des Samhain, comme on a appris la prononciation. Exact. Comme expliqué dans le fond tantôt, les Celtes étaient terrifiés à l'idée que les fantômes approchent leur maison puis avaient également peur de les offenser. Donc, pour s'assurer des bonnes grâces des fantômes et éviter leur colère, que leur colère s'abatte sur leur maison, les Celtes disposaient le soir de Samhain un banquet entier de gâteaux, de pommes à l'entrée du village. Les villageois pensaient que après une année d'errance, les esprits devaient être affamés puis qu'apaiser leur faim calmerait leur colère.
Wow. Ouais, c'est des offrandes.
Oui, ben, puis au fil des années, cette tradition s'est transformée en une fête pour enfants. Les pommes se sont transformées en bonbons, puis les enfants se sont déguisés en fantômes, se sont mis à toquer à chacune des petites portes en chantonnant « Trick or treat » dans la version américaine. Puis en 1840, avec l'immigration des Irlandais, on a vu tantôt avec, on a entendu tantôt avec Juan que c'était la version de l'Irlande. Donc, quand l'immigration des Irlandais aux États-Unis s'est faite, la tradition a traversé l'océan et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, le 31 octobre de chaque année, nos rues sont envahies de ces petits monstres affamés et qui demandent des bonbons. Donc, j'ai fait une recherche pour savoir les bonbons les plus populaires aujourd'hui. Pouvez-vous me... Quel bonbon? Quelqu'un ici pense connaître le bonbon le plus populaire qui est distribué dans nos sacs le soir de l'Halloween?
Le plus populaire? Les barres au Henry?
Non.
Les petites barres?
La fraise Tagada?
Non.
les petits caramels?
Non, c'est les Reese's Pieces, c'est les Reese's Peanut Butter Cups qui sont les plus populaires.
Oh, bon, ah,
c'est bon, c'est bon.
36%. Avec les allergies puis toutes.
Puis toutes, ouais. En deuxième position, les Snickers. En troisième position, les M&M. Puis je suis aussi tombée sur une liste des bonbons les plus détestés. Je vous en nomme quelques-uns en rafale. Les lèvres en cire. Je sais pas si ça, c'est peut-être plus dans notre jeune temps. C'est pas très bon. Hein. Les bonbons durs de grand-mère. Ça aussi, là, ceux qui étaient comme
ça. Il y en a encore. Hein?
La tire Sainte-Catherine, c'est tout ça? La tire Sainte-Catherine?
Il y a aussi la tire Sainte-Catherine qui était pas bonne. Puis le top 1, définitivement, les Tootsie Rolls. Je sais pas si vous vous souvenez, là, c'est l'espèce d'imitation douteuse de chocolat. L'emballage est brun.
Oui.
Mais moi, j'adore ça.
Oui.
Attends, Jeff, j'ai-tu compris que toi, t'adorais ça?
J'adore, c'est une de mes friandises préférées. Une de mes friandises préférées.
Alors, tu es contre la... En tout cas, Tootsie Roll, moi, ça tombe dans mon top 1. Puis moi, personnellement, j'ai toujours détesté les Tootsie Rolls.
Ben, gardez-les pour moi.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour toi. Mais j'ai voulu nous remonter dans nos souvenirs avec les bonbons de notre enfance. Je vais vous en nommer des bonbons qui, peut-être, ça va vous rappeler des choses. Les colliers de bonbons. Tu sais, quand on les mangeait, puis ils étaient à moitié mouillés dans le cou.
Oui,
c'est
là, dégueulasse, ça, oui. Mais c'était bon.
Les suçons de couleur aussi en espèce de
poudre.
De poudre de craie, là. Oui, ouais, ça aussi. Caramel, tantôt Geneviève, tu as parlé des caramels, là. Ça c'est aussi les bonbons de notre enfance. Les jujubes en framboise, les fun dips.
Je sais pas c'est quoi
les
ça.
Les fun dips. C'est à la poudre, on avait bâtonnet, puis
un bâtonnet de sucre blanc.
Il y en a qui recevaient ça à l'Halloween, les chanceux.
Mais ouais, ça... ouais.
Ah.
Les rockets, c'est les pilules. Ouais, les petits rockets. Les closettes ou les raisins secs, ça, c'était pas hot, ça, quand on recevait ça dans notre sac, là, des raisins secs.
Non, mais ceux enrobés de chocolat, c'était bon, par exemple.
Ouais. Les closettes, ouais, ça, c'était pas pire. Ouais. Cigarettes papaye, ou même avant les cigarettes papaye, les cigarettes qui étaient enrobées d'une fine pellicule de papier en chocolat.
Oui.
Donc,
Ah oui!
Ça goûtait bizarre, ce chocolat-là, d'ailleurs.
Ouais, c'était douteux, ça aussi.
Fait à base de nicotine.
Oui, c'est ça. Les suçons à sifflet, est-ce que vous vous souvenez de ça? C'était le tube du suçon, c'était un sifflet qu'on pouvait...
Oui. Oh my God! Ah oh, oui!
Les fruits en plastique avec la poudre dedans, là, qui goûtaient supposément la banane. Ouais, il y avait ça. Les bagues en bonbons aussi.
Ah
là,
les diamants là, que tu suçais.
Oui.
Il n'y a rien de ça qui passe pour la COVID. Hein? Oh.
Le gros diamond sur le doigt, là, la bague de bonbons. Les nerds, c'était comme des petites crottes de sucre, dans le fond, là, qui étaient... les gobstoppers, puis les gommes bazooka avec la blague.
Ah, ouais.
Est-ce que je vous ai ramené un petit peu dans vos souvenirs d'enfance, ces acolytes, avec ça?
Pas mal.
Oui, quand même.
je veux revenir sur les Rockettes et les cigarettes Popeye. Ils ont des histoires intéressantes. Dans les années 50, les compagnies de tabac permettaient aux fabricants de bonbons d'utiliser leur image puis leur brand. C'est dans les années 60, après plusieurs critiques que ceci incitait les enfants à fumer, que les compagnies ont décidé de se distancer progressivement. C'est fou pareil. Aujourd'hui, on ne pourrait pas s'imaginer du tout avoir des brands de cigarettes sur les bonbons de nos enfants. Les cigarettes Popeye aussi ont eu beaucoup de controverses à travers les années. Jeune, qui n'a pas fait semblant de prendre une puff de cigarette et puis être cool? Le produit existe encore, oui. Mais la rectitude politique oblige aujourd'hui que ce ne sont plus des cigarettes Popeye, ce sont des bâtonnets de bonbons. Puis le petit bout, le tison qui était comme mal imprimé là, a disparu.
C'est vrai?
Oui. Et les Rockettes, eux, dans le fond, c'est super vieux, ce bonbon-là. Ça date des années 40 dans le New Jersey. Ils sont arrivés au Canada dans les années 60. Aux États-Unis, on appelle ça des Smarties et non pas des Rockettes. Au Canada, le nom des Rockettes est seulement utilisé au Canada. Ça fait référence aux munitions dans le temps de la guerre, là, les petits Rockettes.
Moi, j'appelle ça des Smarties.
Non, les Smarties, c'est le nom américain. Puis pourquoi que les enfants, le même bonbon, c'est-à-dire pourquoi le même bonbon a deux noms, c'est que le droit américain de la marque appartient à Smarties Candy Company. Puis au Canada, le Nestlé qui a lancé les Smarties en chocolat que nous, on connaît. Donc, pour respecter les droits d'appropriation, le même bonbon a les deux noms, mais on ne peut pas s'appeler, les Rockettes les Smarties
donc,
ici.
Donc, les Américains n'ont pas de Smarties tels qu'on les connaît.
Exactement. Les Américains n'ont pas de Smarties. Si vous avez la prochaine fois, dans quelques temps, quand nous irons aux États-Unis, vous remarquerez qu'il n'y a pas de Smarties de la marque. Il y a quelques importateurs spécialisés qui les ont, mais sinon, en grande surface, on ne trouvera pas de Smarties que nous, on connaît en chocolat là-bas. Puis même selon mes recherches, les Smarties, ou en fait les Rockettes, comme nous on les appelle, c'est les bonbons les moins pires, entre guillemets, ici, là, soit les plus santé, entre gros guillemets. Oui, ils sont faibles en gras, faibles en sucre. Essentiellement, c'est que de la poudre colorée et parfumée. Donc voilà. Donc, je peux pas finir les acolytes sans vous parler rapidement. Je vous invite à aller voir les vidéos virales sur les réseaux sociaux des parents qui font à croire d'avoir mangé tous les bonbons d'Halloween de leurs enfants.
Oui. Puis les enfants qui braillent.
Oui, et qui ont filmé leur réaction. C'est hilarant. Je vous invite à aller voir ça sur les réseaux sociaux. C'est absolument hilarant.
Merci beaucoup, Geneviève.
Pauvre enfant.
Merci.
Geneviève, as-tu deviné?
J'ai la chair de poule, les acolytes, en ce moment.
Ah oui! Ben, pas moi, je ne l'ai pas vu la série. Je ne pense pas la voir non plus, mais Geneviève, c'était pour toi. C'était la chanson thème, là, justement, de la série Halloween. C'est écrit par John Carpenter, pardon. Puis voilà, c'est un classique. Hein, tout le monde la connaît, cette chanson-là, même ceux qui n'ont pas vu et qui ne veulent pas voir.
Et qui ne veulent pas, oui.
Merci beaucoup, Christine. Alors, cette semaine, pour ma part, ben, je vous parle d'un livre où il y a une trentaine de recettes. fête reliée à l'Halloween. Et le livre, c'est « La cuisine d'Halloween, recettes salées et sucrées, 100% mortelles » de Vincent Amiel aux éditions Salard. Alors, Vincent Amiel, c'est un styliste culinaire qui travaille pour des magazines et des émissions de télévision. Et à l'occasion, il publie des livres. Il en a publié une dizaine depuis. Alors, ce sont des recettes simples, rapides, ludiques, avec des belles illustrations pour nous guider, parce que faut se le dire, là, c'est ce genre de recette-là, c'est pas tant pour la recette en soi que pour l'aspect original de la présentation. Hein, c'est ça qui est intéressant.
Alors, visuel.
Le visuel. Puis nous mettre dans l'ambiance de l'Halloween. Alors, pour vous donner des idées, parce que, sincèrement, vous n'avez pas besoin de lire ce livre-là pour vous donner des idées. Alors, pour créer votre imagination, je vous ai donné peut-être quelques idées. Je vais vous donner ici quelques idées de recettes que vous pouvez faire pour vous mettre dans l'ambiance à l'Halloween. Alors, par exemple, vous pouvez faire des mini-pizzas ou vous présenter sur chacune des pizzas une araignée noire. Et pour faire l'araignée noire, ben, vous prenez une moitié d'olives noires, une olive que vous coupez en deux. Ça, c'est le corps, et vous faites des longues pattes avec des olives encore, et vous faites 8 longues pattes, parce qu'une araignée, ça a 8 pattes. Hein? Alors, on façonne le tout sur la pizza, et voilà, c'est de la très grande gastronomie. Voilà. Alors, tout à l'heure, Geneviève, tu nous as donné une foule de suggestions de films d'horreur pour nous mettre dans le bain, nous aider à écouter ça dans une ambiance morbide. Eh bien, pourquoi pas nous préparer un popcorn ensanglanté, un popcorn au sang de vampire. Alors, on parsème notre popcorn tout simplement de cumin, de paprika, et on peut l'arroser un petit peu de colorant alimentaire rouge. Ça fait tout simplement la job pour se mettre dans l'ambiance. On peut aussi, pour créer l'ambiance de sorcière, bien, faire des biscuits aux doigts de sorcière, des sablés. Alors, pour faire les jointures, on fait des petites lignes dans le biscuit qu'on a formé en doigts. Puis on met, pour faire l'ongle, bien on peut mettre une demi-amande qu'on met au bout.
Je regarde des images de ça, Jeff. Il y a des gens qui réussissent quand même à faire quelque chose d'assez réaliste en mettant comme de la confiture autour de l'ongle, comme pour faire comme si l'ongle était ensanglanté.
Il y a une manière de créer des choses très originales. Puis parlant d'originalité, il crée. Je trouve que ce qui est le plus original dans son livre, là, c'est vraiment les yeux de dragon mimosa. Donc, il nous présente une recette de comment faire un œuf dur, mais comment rendre cet œuf dur-là pour qu'il y ait des veines rouges qui éclatent un peu dans l'œuf. Alors, lorsqu'on l'ouvre, on voit toutes ces veines qui sont éclatées. Et il appelle ça l'œuf de dragon. Alors, il y a plein d'idées, meringue fantôme, muffins au chocolat mangés par des vers, muffins myrtille momie, des os d'apéro. Alors, c'est plein de belles idées que vous pouvez trouver. Vous pouvez aussi toutes trouver ces idées-là sur Instagram. Et il faut tout simplement s'inspirer, je pense. Alors, c'est la cuisine d'Halloween, recette salée et sucrée, 100% mortelle, de Vincent Amiel aux éditions Solar.
Les sorcières sortent le soir, les fantômes aussi. Le ciel est tout noir, les nuages sont gris. Est-ce que tu as peur des méchants esprits?
Oh, monsieur, oui, 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 oui. C'est l'Halloween, c'est l'Halloween.
On décèle un accent franco-ontarien, hein, ou que...
Peut-être. C'était la chanson « C'est l'Halloween », Matt Maxwell.
Merci, Christine. Cette année, le célèbre grand bal des citrouilles au Jardin botanique de Montréal n'aura pas lieu, mais le concours des citrouilles, oui. Alors, virtuellement, celui-ci. Les participants avaient jusqu'au 16 octobre pour présenter une citrouille originale, mais maintenant, c'est à nous de jouer le jeu et d'aller voter sur nos plus belles citrouilles, les citrouilles qu'on trouve les plus originales. Vous avez jusqu'au 25 octobre prochain pour voter. Allez sur le site espacepourlavie.ca. Voilà, j'espère qu'on vous aura fait voyager autour du thème de l'Halloween. C'est déjà la fin de ce cabaret. Si vous avez aimé le cabaret, ben n'hésitez pas à nous donner quelques commentaires sur Apple, Spotify ou Google. Et vous pouvez également visiter notre page Facebook, facebook.com/lecabaretdesacolytes. Avant de nous quitter, Juanito, tu veux nous dire un petit mot pour la fin?
Moi, je dirais juste que Halloween, en fait, c'est une altération de All Hallows Eve, qui signifie littéralement, d'après Wikipédia, la veille de tous les saints, donc la veille de la Toussaint.
La veille de la Toussaint, ben oui. Merci beaucoup. Et toi, Geneviève, tu nous as parlé de plusieurs films d'horreur, dont plusieurs classiques, mais si tu avais à nous en recommander un là, qui sort de l'ordinaire, un film pour nous surprendre, ce serait lequel?
Pour vous surprendre, parmi les films les plus récents, là, je dirais que The Visit est assez déstabilisant. Merci.
Merci. Et toi, Christine, un mot de la fin?
Et en fait, comme toujours, j'ai beaucoup de plaisir autour du cabaret, mais je n'irai pas voir de film d'Halloween. Bon Halloween, tout le monde.
Merci. Janelle?
Je parlais en tout début d'émission que je me mettais hier dans l'ambiance en écoutant un film d'Halloween, effectivement. C'est la tradition chez nous. Chaque année, on se tape un marathon Harry Potter. Donc, je vais poursuivre ce marathon avec mon fils, effectivement. Joyeux Halloween, tout le monde!
Merci. Alors, je vous remercie. Ce podcast est une production de Fort Talent Conseil. On participé à cet épisode Janelle Touchette, Christine Gélina, Geneviève Proulx, Juan Blasco. Mon nom est Jean-François Gélina et on se laisse la gang sur cette réflexion d'un anonyme qui a une certaine originalité. Alors, si vous ne savez pas comment décorer votre citrouille cette année, creusez-vous un peu la tête et vous trouverez. Bonne semaine, tout le monde!